Et la chose la plus frustrante qui soit pour moi, c'est d'apprendre qu'un jour, je n'aurai plus le moyen de lire mes revues scientifiques favorites et d'apprendre toutes ces merveilles que nous donne aujourd'hui la science, l'observation et la vie personnelle, et que malgré tout, ça va continuer et que dans quelques siècles, on en saura beaucoup plus, sans doute, que j'en sais moi-même, mais que je n'aurai pas le moyen de savoir. Pour moi, c'est la grande frustration, mais ça fait partie, je pense, de ce qu'on peut appeler la grande aventure univers.
Peut-être faites-vous partie des chanceux qui ont pu observer les aurores boréales dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier à Montpellier et ailleurs en France. Pour ma part, je suis passé complètement à côté, ce n'est que le lendemain que j'en ai eu vent, en voyant de nombreuses photos de ce phénomène aussi beau que rare et qu'on a plutôt l'habitude d'observer dans des régions plus nordiques. Seulement quelques jours plus tard, le ciel nous offrait un autre spectacle d'une beauté tout aussi éphémère, avec le passage d'une comète baptisée la comète du siècle. Cela me conforte dans l'idée que science et poésie, science et art, science et imaginaire peuvent s'entremêler, dialoguer et qu'un scientifique comme Hubert Reeves, mort il y a tout juste un an en octobre 2023 et dont on entendait la voix en introduction, peut aussi être un artiste. Car en cette ère de post-vérité et de crise où l'on coupe dans les budgets de l'enseignement, de la recherche et de la culture, l'importance des sciences et des faits, comme des arts et de l'imaginaire, n'en est que plus grande. Plus que jamais, ce sont des choses essentielles. À propos de post-vérité, il y a un film en salle en ce moment au sujet d'un ex-président américain et qu'il faut absolument aller voir, ça s'appelle The Apprentice et c'est une satire aussi réussie que cauchemardesque qui nous plonge dans un monde où règne le fric, la bêtise, la laideur, l'image du film étant d'ailleurs volontairement enlaidie entre soap, opéra et reportage télé. Un monde cynique où peu importe la vérité et les moyens employés si cela peut nous permettre de gagner du pouvoir et de l'argent, un monde dénué de poésie mais où le personnage de Trump, puisqu'il s'agit de lui et qui n'a décidément honte de rien, se prend quand même pour un artiste. Bonjour et bienvenue sur La Dernière Piste sur Radio Campus Montpellier pour la deuxième émission de cette nouvelle saison. Et ce son qu'on vient d'entendre, c'était il y a 10 ans, en novembre 2014, la sonde spatiale européenne Rosetta larguait le robot Philae sur la comète Chury. À cette occasion, la sonde avait également mesuré le champ magnétique dégagé par l'astre et l'avait retranscrit sous une forme sonore, un champ magnétique syncopé, et c'est ce qu'on entend, le champ de la comète en somme, un son assez fascinant que l'on entend donc toujours en fond. Un son, alors si j'ai bien compris, je ne suis pas scientifique, mais c'est un son produit par les oscillations du champ magnétique aux abords de la comète, qui est normalement inaudible aux oreilles humaines. Il a donc fallu accélérer 10 000 fois la fréquence pour qu'on puisse entendre ce son. Ce qu'on vient d'entendre, l'enregistrement de ce son, en 2016, après 2 ans de mission, la sonde Rosetta s'est écrasée sur la surface de Chury. Et un an après, l'European Space Agency a publié l'ultime photo prise avant la perte définitive du contact. Et je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus en ce début d'émission. Je voulais aussi revenir sur ce que je disais dans l'intro et mentionner le nom du réalisateur réalisateur du film The Apprentice, c'est Ali Abbasi, un film, donc un réalisateur iranien naturalisé danois et qui a fait d'ailleurs ses premiers films au Danemark. Là, c'est son premier film américain et donc son regard sur les États-Unis est d'autant plus intéressant, je trouve. Ça me permet aussi au passage de mentionner, de dire quelques mots sur le cinéma iranien qui arrive à être vivant malgré le régime qui est au pouvoir là-bas. Si vous en avez l'occasion, allez voir, donc en plus d'aller voir The Apprentice, allez découvrir encore en salle en ce moment Les Graines du Figuier Sauvage. C'est un film de Mohammad Razoulov qui parle donc de la situation en Iran et notamment de celle des femmes. Mais pour l'heure, on va continuer, donc on va débuter même cette émission et on va revenir dans cette ambiance cosmique que j'essaie d'instaurer donc dès l'introduction de cette émission. Et on va rester un petit peu donc dans cette ambiance avec un morceau d'un groupe, et donc j'en parlerai juste après, mais un morceau d'un groupe que vous connaissez très certainement et qui, tout comme le son de la comète qu'on entendait juste avant, fait de la musique une musique à la fois belle et triste et mélancolique. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. We'll be right back. Cure avec Alone, une chanson issue, le premier single extrait de leur futur album à venir, le premier en 16 ans, c'est le premier effectivement depuis 2008, un album qu'on attend depuis donc des années, qui nous est promis surtout depuis ces dernières années par Robert Smith et qui est sans cesse repoussé. Il est enfin là, il sortira dans quelques jours à peine. Sur la pochette de cet album, on peut voir une pochette très classe, très sobre, tout en noir. On peut y voir une sculpture d'où semble surgir un visage qui me fait une sculpture qui me fait fortement penser justement, on en parlait juste avant, à une comète qui évolue toute seule dans le vide spatial. En 2016, David Bowie nous laissait orphelin avec son album Black Star, un album testament sorti à peine quelques jours ou peut-être même le jour de sa mort, un album donc qui parlait beaucoup de cette thématique de la fin, de la mort. C'est le cas aussi sur cette chanson, et apparemment, d'après les personnes qui ont pu écouter tout l'album, d'après les chroniques que j'ai pu lire, c'est un thème, une thématique qui revient beaucoup, la question de la vieillesse, et l'idée de la mort, mais heureusement, Dieu merci, Robert Smith se porte très bien. Le groupe va certainement repartir prochainement en tournée pour défendre cet album. C'est la première fois qu'ils repartent en tournée pour défendre un album depuis de nombreuses années, puisqu'ils n'ont pas arrêté ces derniers temps donc de faire des tournées, mais qui étaient uniquement des tournées best-of, fort sympathiques, mais un petit peu monotones à mon goût, à mon sens. En tout cas, moi j'attends avec impatience ce nouvel album. Comme tout fan de Cure, j'ai très hâte de découvrir les 8 chansons qui composent cet album, parce que oui, effectivement, c'est un album qui s'annonce assez court. Mais en même temps, c'est aussi... d'après les dires de Robert Smith, le premier album de ce qui devrait être une trilogie, après la trilogie, leur fameuse trilogie que constitue 17 Seconds, Pornography et Disintegration, qui sont donc trois albums sortis dans les années 80, qui formaient ce qu'on appelle en général la trilogie glacée, qui est une trilogie d'albums assez marquée par des thématiques assez sombres. Et je me rends compte à l'instant que je viens de me tromper, en fait, le troisième album de cette trilogie, c'est bien l'album Faith et non pas l'album Disintegration. Mais la confusion vient du fait aussi que Robert Smith a un petit peu, au début des années 2000, défini lui-même une autre trilogie au sein de sa discographie, composée donc du premier album que j'ai cité, mais aussi de Disintegration et d'un autre album sorti à la fin des années 2000, au début des années 2000, dont je n'ai pas le nom malheureusement. Mais voilà, donc c'est effectivement une petite confusion de ma part. On reparlera forcément du groupe de Robert Smith une prochaine fois dans une émission plus longue où on prendra plus le temps de revenir en détail sur leur longue discographie, mais pour l'heure, on va retourner des années en arrière avec l'un de leurs plus anciens morceaux qui évoque justement un petit peu, comme j'ai l'impression que c'est une thématique aussi qui court sur ce nouvel album, la question du temps qui passe. Une chanson issue donc de leur deuxième album, dont je galérais à dire le nom juste avant, 17 Seconds. Quelques mots quand même avant de passer la chanson à ce sujet. C'est un album qui marque donc le début, je l'ai dit, de la trilogie qui comprend Faith en 80, Pornography en 82. Un album marqué par le départ du premier bassiste et l'arrivée de Simon Gallup, qui impose son fameux son de basse, un son mélodique et puissant qui mène notamment la danse dans ce qui sera le premier vrai tube de Cure, A Forest, un album décharné, minimaliste, introspectif, brumeux, marqué par la trilogie berlinoise de Bowie et par l'album Closer de Joy Division. Je rappelle qu'on est en 80, l'année même de la mort de Ian Curtis, un album pour lequel Smith s'affirme de plus belle comme un grand compositeur. Il compose la majorité des titres chez ses parents, sur l'orgue de sa grande sœur, avec une boîte à rythme rudimentaire et une vieille guitare. Bref, c'est un disque charnière et de transition, sur lequel on trouve notamment In Your House, qu'on écoute sans plus attendre. Et vous venez d'écouter The Cure avec In Your House, ainsi que suivi de Rhinocéros avec Machine pour les oreilles. Vous aurez sans doute remarqué comme un air de ressemblance entre les deux morceaux, notamment par rapport à la ligne de basse qui est empruntée effectivement au morceau précédent, à la ligne de basse de Simon Gallup, tout au long de ce morceau donc de Rhinocéros. Et également, on l'entend vaguement en fond, mais aussi ils reprennent la mélodie de la guitare sur la partie sur le pont. Alors il s'agit non pas d'un sample parce qu'ils reprennent pas exactement les lignes de basse du morceau des Cure, mais ça y ressemble fortement dans la démarche, et pour cause le morceau s'inscrivent dans un courant qui a fait maintes et maintes fois usage du sample, qui est donc le courant de la French Touch à la fin des années 90. C'est un morceau qui date de 1996, 3 ans avant la sortie du premier album de ce groupe, qui est un groupe donc, comme je l'ai dit, qui fait partie, qui est issu de ce courant de la French Touch, mais qui n'est pas le groupe et la formation la plus connue, et pourtant c'est un groupe qui nous vient d'ici, de Montpellier. Ce groupe donc s'appelle Rhinocéros, alors avec un orthographe un petit peu particulier, donc avec deux guillemets, le nom du groupe est entre guillemets, et ça s'écrit R-I-N-O accent circonflexe C-C-D-I-E accent aigu R-O-S-E, Rhinocéros en référence au Rhinocéros de UNESCO, groupe dont on entend actuellement Le Mobilier, qui était un petit peu le tube, le morceau qui a été le plus diffusé en tout cas en radio à l'époque, issu du premier album Installation Sonore, qui fête ses 25 ans cette année, puisqu'il est sorti donc à la toute fin du siècle dernier, un disque qui s'inscrit donc à la fois donc dans le courant de la French Touch et qui est en même temps issu et imprégné de house music. Et en 1999, on est seulement 2 ans après la sortie du premier album des Daft Punk et 1 an après celle du premier album d'Air, Moon Safari, qui est aussi un chef-d'œuvre en son genre, et 1 an avant le premier album de Phoenix. Donc on est en plein, effectivement, dans ce courant. Suivront après Installation Sonore 4 autres albums qui iront un peu plus dans une direction plus rock, en tout cas plus électro-rock, et qui s'éloigneront de la house. Mais on va pas s'étendre plus en longueur sur ce groupe aujourd'hui. En tout cas, je pense que comme pour The Cure, on lui dédiera une émission entière. Il s'agit plutôt ici de parler du premier single qui est sorti il y a quelques semaines et qui annonce la sortie du nouvel album. Là aussi, un nouvel album qui était attendu depuis de nombreuses années. Ça fait depuis 2016 qu'ils n'ont pas sorti de disque. Et ce nouvel album qui s'appelle Psychoanalysis s'est donc présenté avec un premier morceau qui s'appelle Awake, sur lequel on peut entendre Benjamin Diamond au chant. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez peut-être sans doute déjà entendu au moins une fois dans votre vie sa voix, son chant, puisque c'est lui qui chantait en 1998 sur le fameux Music Sounds Better With You de Stardust, un groupe éphémère dont faisait partie l'un des deux Daft Punk, Thomas Bangalter, à l'époque où Rhinocéros faisait ses premiers pas. Alors je vous invite, avant d'écouter le morceau en entier, je vous invite à aller regarder le clip réalisé entièrement en animation 3D par Objective 3D avec Unreal Engine 5, le moteur de jeux vidéo hyper réaliste développé par Epic Games, et grâce à la motion capture, une technique qui consiste à capter les mouvements de personnes réelles à l'aide de capteurs placés sur plusieurs parties du corps. Un clip qui se compose d'un seul plan séquence où l'on suit un personnage qui n'est autre que Jean-Philippe Freux, l'un des deux membres fondateurs du groupe, qui marche de nuit, d'abord seul, puis rejoint par Patrice Carrier, le deuxième membre principal du groupe, la bassiste, dans une ville imaginaire et futuriste où l'on reconnaît d'ailleurs quelques monuments à quelques parties de la ville de Montpellier, comme la Porte du Pérou notamment, et aussi où se cachent pas mal de clins d'œil à la carrière du groupe comme autant d'easter eggs. Je cite la description du clip dans la description qu'on peut trouver sur YouTube. Donc je cite: cet espace onirique, référence cachée de vinyles, d'affiches et de lieux emblématiques, rend hommage à l'ensemble de la carrière du groupe. Cette ville fictive, symbole du développement mental du personnage principal incarné par Jean-Philippe Freux, est segmentée en fonction du rythme et de la structure musicale, dévoilant une série de décors variés et distincts. On écoute donc tout de suite, sans plus attendre, Awake de Rhinocéros sur Radio Campus.
I got to be awake. If I wanna move on, I wanna be right now. I never stop again.
Rhinocéros avec Awake, donc leur nouveau morceau, nouveau single issu du dernier album Psychoanalysis, qui reprend d'ailleurs la pochette, fait un clin d'œil au premier métier. Alors je sais plus si c'est d'un des deux membres fondateurs ou des deux membres fondateurs, mais en tout cas l'un des deux était, au moins l'un des deux était psychologue ou a fait des études de psychologie au départ. Donc ça, on retrouve cette idée là dans le nom de l'album et puis aussi dans la présence d'un canapé un petit peu de psychanalyste sur la pochette. Une pochette là aussi très simple, très sombre, mais qui je trouve est plutôt réussie. Alors, comme pour The Cure, donc comme je le disais, on aura l'occasion de reparler de ce groupe dans une émission future et peut-être même d'interviewer le groupe pour une interview donc fleuve. Comme je le disais plus tôt, Rhinocéros est un groupe donc formé par un noyau dur. un duo qui compose la plupart des morceaux et qui est accompagné aussi de plusieurs musiciens en studio et en live, et j'avais envie de braquer les projecteurs notamment sur deux de ces musiciens à travers deux projets, leurs deux projets respectifs avant et pendant les débuts de Rhinocéros, deux groupes qui sont assez éloignés dans leur genre, assez éloignés de l'électro-rock et de la house de Rhinocéros, mais qui sont tous les deux, je trouve, de très bons... très bon groupe en leur genre, tout simplement. On va commencer avec le premier groupe qui était celui de Rémi Saboul, donc un des deux guitaristes de Rhinocéros. Et on en parle un petit peu plus après un petit extrait donc, de Clinical Test Required. Alors effectivement, avec ce morceau, on est assez loin de la musique de Rhinocéros, mais alors on serait plutôt côté américain, avec une voix qui peut faire penser un petit peu à celle de Kurt Cobain, et puis la musique aussi à celle de Nirvana. C'est une musique voilà, qui est tout à fait assumée comme étant influencée par toute la scène américaine de l'époque, puisque c'est un groupe qui a été créé en 1991, donc pile l'année vraiment, on va dire, où le grunge était à son apogée aux États-Unis. Et puis dans le monde aussi, c'est l'année de la sortie de Nevermind de Nirvana justement. Donc ce groupe, j'ai pas encore donné son nom, ça s'appelle Drive Blind. C'est un exemple que le rock français a bel et bien existé et a été bien vivant à une époque, même s'il chantait en anglais, comme vous pouvez le constater. Un groupe donc formé par Rémi Saboul en 1991, qui n'a pas publié beaucoup d'albums. Ils ont publié un 45 tours donc en 91. Suivi d'un EP en 93, un autre EP en 94, l'année même où ils ont sorti leur premier album. Donc le deuxième EP sorti en 94, c'est celui dont est issue la chanson qu'on entend encore actuellement. Et puis ils ont sorti un deuxième et dernier album en 96, avant leur séparation, qui pour moi est un des plus gros gâchis de l'histoire du rock français. Tant ce groupe, je pense, aurait pu... aurait pu gagner en importance, mais quand on interroge le guitariste justement à ce sujet en interview, il dit que selon lui, ils ont pas de regrets vis-à-vis de ça, parce que pour eux, ils ont été importants à leur échelle et ils ont été aussi très actifs, je crois, dans la vie associative de leur ville d'origine. Alors, puisque eux, ils viennent plutôt de Nîmes, même si je crois qu'ils ont aussi beaucoup joué, enfin, ils ont été beaucoup présents. Ils étaient sûrement entre Nîmes et Montpellier à l'époque. Ils avaient aussi une émission de radio, genre je ne sais plus sur quelle radio, sur une radio associative. Donc, ils organisaient des concerts également. Donc, voilà, ils ont eu un rôle assez actif à l'époque dans la scène musicale locale. Le nom du groupe Drive Blind, c'est aussi le nom d'un album et d'un morceau de Ride, qui est un groupe emblématique, groupe anglais, celui-ci de la scène shoegaze. Mais selon les membres du groupe, le nom de leur groupe n'a pas été inspiré directement de Ride, alors ça voilà, à vérifier. En tout cas, voilà, on n'est pas de doute, on est bien dans les années 90 avec les sonorités de ce groupe, notamment qu'on a pu entendre donc sur ce Clinical Test Required, décidément, qu'on a donc entendu. Dans l'album suivant, le deuxième et dernier album, alors on aura des ambiances un peu plus sombres. Alors c'est vrai que là, ce morceau était un peu plus mélodique, on va dire. Là, sur le deuxième album, on va avoir des choses un petit peu plus sombre, c'est un album un peu plus rageur, mais aussi plus maîtrisé, avec plus de variété dans le son, qui alterne entre des morceaux rapides, d'autres un peu plus lents, comme ce Soul Beauty, sur lequel on trouve quelques accents blues même. L'ambiance générale, donc j'ai dit, est assez sombre et ça s'ouvre dès le premier morceau qui s'appelle Fear. Alors un album aussi où on peut entendre également une voix qui s'est ajoutée peu de temps avant, qui est celle de... je n'ai plus son nom sous les yeux... de Karine Osier. Voilà, Karine Osier, chanteuse et bassiste, qui a rejoint le groupe peu de temps avant cet album et donc peu de temps avant la séparation du groupe, et qu'on peut entendre également sur un autre morceau de cet album qu'on va écouter, qui s'appelle Vegetable Vendetta. Un des morceaux les plus réussis de ce disque, qui d'ailleurs, je le signale, a été réédité en 2016 comme toute la discographie de ce groupe culte par le label Head Records. On écoute donc Drive Blind avec Vegetable Vendetta. Avec Drive Blind, on était plutôt outre-Atlantique, comme je disais, avec des sonorités très américaines, mais ici on se retrouve plutôt du côté du Royaume-Uni, car les membres d'Otis Wood, dont on entend Weirder, avec l'accent français, sont de vrais fans de pop britannique, et ça s'entend très bien, et en même temps je trouve que c'est parfaitement digéré. Alors j'aime beaucoup cette chanson qui s'ouvre donc par ce cri plaintif et cette voix rock complètement voilà désabusée et je trouve que c'est une voilà un morceau avec une espèce de rage comme ça que j'aime beaucoup qui d'ailleurs contraste beaucoup avec le morceau suivant qui suit directement cette chanson sur l'album qu'on écoutera juste à la fin qui est beaucoup plus pop. J'aime autant les deux, hein, mais c'est vraiment voilà, deux ambiances totalement différentes. Ce groupe, donc, c'est celui de Florian Brinker, l'autre guitariste de Rhinocéros. C'est un parcours assez particulier puisque ce groupe se forme à la fin des années 80, en 89 précisément, de la rencontre, enfin en tout cas de jeunes étudiants à l'époque qui étaient étudiants à Paul Valéry, notamment donc Florian Brinker, et mais qui mettra donc 10 ans à enregistrer son premier album avant de disparaître. De se séparer au début de ce siècle, laissant donc derrière lui ce disque unique qui s'appelle Weirder, du nom de ce morceau qu'on entend actuellement, tout comme qui est donc je trouve exemple de ce qu'on peut faire de mieux en France, sans à la fois en faisant une musique donc fortement inspirée de la musique britannique, mais sans sonner sans pâlir justement de la comparaison avec des groupes britanniques, en tout cas à mon humble avis. Le groupe, donc, comme je disais, se séparera malheureusement assez vite avant d'avoir pu sortir un nouvel album. Mais Florian Brinker continuera de jouer, bien sûr, avec Rhinocéros et en solo, avec Rhinocéros jusqu'à aujourd'hui même, hein, puisqu'il va les rejoindre donc sur la future tournée du groupe. Il sort notamment, Florian, donc, son nouvel album sous son propre nom, un album en 2010, et aussi un deuxième en solo en 2019 qu'il défendra. En live, entouré de musiciens, dont mon père d'ailleurs à la batterie, je me dois de le dire, et je le salue d'ailleurs parce que je sais qu'il écoute l'émission, avec qui il jouait d'ailleurs dans un autre groupe dans les années 90 en même temps que Otis Wood qui s'appelait Les Faunes. Bref, des concerts au cours desquels il rejouera des morceaux d'Otis Wood, dont cette chanson que je tenais absolument à diffuser, qui pour moi est un tube en puissance, un tube peut-être dans un univers parallèle, qui se trouve aussi sur cet album mais qui est une bien plus vieille chanson. On peut voir notamment sur YouTube une archive d'un concert de 1991 au Rockstore où le groupe l'a joué déjà. C'est une chanson puissante, mélodique, mélancolique, dont les paroles aussi me touchent beaucoup. Ça s'appelle Smile et on va l'écouter tout de suite sans plus attendre sur Radio Campus Montpellier.
Chessboard.
voilà, cette magnifique chanson Smile de Otis Wood que je tenais vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de la passer un jour dans cette émission. Une chanson qui me fait beaucoup penser en partie à Vapor Trail de Ride. On en parlait tout à l'heure de ce groupe de shoegaze anglais. Voilà, c'est une chanson qui, deux chansons qui, je trouve, ont des résonances un petit peu dans leur sonorité, dans leur ambiance. Voilà, bon, je vais passer. C'était donc pour terminer un peu cette partie, voilà, sur Rhinocéros et les deux groupes, des membres qui accompagnent donc la formation d'Electro-Rock Montpellier-Rennes, pour un petit peu montrer un petit peu toutes les facettes de ces musiciens, en tout cas quelques-unes que je trouvais intéressantes, voilà, de diffuser, de mettre un peu les projecteurs dessus. Voilà, donc c'est fini pour cette partie. On va maintenant passer à une autre partie de l'émission que j'aimerais instaurer dans plusieurs de façon récurrente dans l'émission. Ça s'appelle c'est une chronique qui s'appelle Dans le noir, qui consiste en des témoignages de cinéphiles qui nous racontent des souvenirs marquants en lien avec le cinéma et avec certaines séances qu'ils ont pu vivre notamment. Et pour commencer, aujourd'hui, on écoute le témoignage d'Avril.
Il se passe de tout dans ces films, et le spectacle est ailleurs, mais il y a de la magie quelque part.
Moi, c'était une expérience collective, mais plutôt finalement solitaire. Alors, c'est vrai que on regarde un film avec plein de gens, mais moi, je me retrouvais souvent au cinéma pour être avec moi-même, en fait. Je vais partir de l'exemple de mes séances de cinéma quand j'étais en classe préparatoire. J'étais à l'internat, donc j'étais 24 heures sur 24 avec des gens. Je mangeais avec des gens, je dormais avec des gens, j'étudiais avec des gens, donc j'étais toujours, toujours, toujours accompagnée. Et c'était très, très difficile pour moi, en fait, comme expérience, parce que mes parents m'avaient toujours laissé un espace de liberté, de solitude. Ils avaient toujours fait en sorte de me laisser un espace à moi et rien qu'à moi. Et donc, quand j'étais à l'internat, j'ai multiplié les séances de cinéma. Et c'est étrange parce que j'étais entourée de plein de monde, mais j'étais toute seule, en fait. C'était le seul moment où je me sentais seule, où je sentais que je pouvais être moi-même devant le film et partager cette expérience rien qu'avec moi. Et j'étais pas obligée de raconter à des gens ce que je ressentais. Si je pleurais, je pleurais et c'était pour moi. Si je riais, c'était juste pour moi aussi. Alors que quand j'étais à l'internat, quand je pleurais, quand je riais, quand je me sentais mal, quand je me sentais heureuse, j'étais toujours obligée d'expliquer aux gens pourquoi je me sentais comme ça. Donc à chaque fois que je me rendais au self, par exemple, pour manger matin, midi et soir, quand je me rendais à même à un endroit aussi intime que la douche, j'étais obligée d'expliquer pourquoi je riais, pourquoi je pleurais. Alors qu'au cinéma, j'étais pas obligée. C'est un petit peu réducteur de dire pleurer ou rire, mais c'était les deux expressions de moi-même qui étaient le plus visibles, donc qui pouvaient interloquer les gens. J'allais plus de 3 fois par semaine au cinéma. C'était comme une addiction. C'était mon espace à moi, c'était le cinéma. Comme si au moment où j'étais réunie avec le plus de gens possible, j'étais dans une telle solitude que je pouvais me retrouver avec moi-même. Donc j'ai multiplié les séances et c'était vraiment une addiction. Et je crois en fait que c'était très très lié à mes premières expériences véritables de cinéma. Parce que quand j'étais petite, j'habitais dans un village où il y avait une salle qui était en très gros risque de disparaître parce que il n'y avait pas les moyens de financer cette salle. C'était une salle qui était avec des projections à la pellicule et pas au numérique. Elle n'était pas du tout passée au numérique. Et j'étais tout le temps la projectionniste à monter ses pellicules. Je l'aidais à enclencher la séance. Et très très souvent, pour les séances d'arrêt d'essai, on était 1, 2, 3 personnes grand max, et j'étais toute seule. J'allais au cinéma en pyjama, j'allais au cinéma le matin sans avoir déjeuné, le soir déjà prête pour aller au lit, et c'était pareil, j'avais l'impression d'être toute seule. Et je crois que c'est de là que m'est venue la sorte d'addiction et de passion pour le cinéma. Voilà, c'est un petit peu condensé, mais c'était ça.
Et voilà, ben écoutez, c'était la chronique, la première chronique dans le noir de cette saison. Merci à Avril pour son témoignage et je vous propose pour terminer cette émission de faire un petit tour rapide de l'actualité culturelle récente et on commence avec ça. Rocket to the Moon, c'est une chanson des Stranglers, mais c'est aussi un album d'Electra Lane, mais c'est aussi le nom d'une association, d'une structure qui organise depuis plus d'une décennie des concerts et des soirées à Montpellier, notamment au Rockstore. C'est aussi d'ailleurs le nom d'une émission sur Radio Clapas, qui est présentée donc par Pierre Thomy, qui est le fondateur de cette association. Et la semaine dernière, le 16 octobre, c'était le groupe Rendez-vous, qui non pas a inauguré la saison, mais en tout cas c'est un des premiers concerts de cette nouvelle saison. On retrouvera notamment cette année Peter Hook, début 2025, et puis on retrouvera également Pierre Thomy, donc le fondateur de cette association et l'organisateur de ces concerts au micro de La Dernière Piste dans une émission spéciale certainement en novembre ou en décembre. Peut-être avez-vous reconnu le thème principal du film Grave de Julia Ducournau, premier long métrage incroyable de maîtrise dans son dosage entre horreur et comédie, mais aussi teen movie, un film culte, vraiment, sorti en 2016. Et j'en parle parce que le nouveau film de Julia Ducournau, qui n'a pas encore de titre pour le moment, est en tournage actuellement, 3 ans après la sortie remarquée de son deuxième long métrage Titane, qui avait gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes, des mains du jury présidé par Spike Lee. Récompense à l'occasion de laquelle Julia Ducournau avait prononcé un discours qui m'avait beaucoup touché et où elle avait dit cette phrase qui m'avait marqué, qui était celle de laisser, en tout cas qu'il faut laisser entrer les monstres, notamment sous-entendu dans des festivals comme celui de Cannes qui n'a pas l'habitude forcément de récompenser des films d'horreur ou des films de genre en général. Et même si le film m'avait laissé un peu perplexe, je le trouvais trop inégal, notamment dans sa structure narrative, il n'en est pas moins un geste artistique fort et important, je trouve, pour le cinéma français et le cinéma mondial, et j'attends donc avec impatience son prochain long métrage qui sortira potentiellement en 2025 ou début 2026. Autre musique, autre bande originale assez anxiogène pour un festival, pour parler d'un festival qui pourtant met à l'honneur des films tournés dans les pays méditerranéens, puisque c'est le festival du cinéma méditerranéen qui cette année met à l'honneur notamment Rodrigo Sorogoyen, réalisateur du magnifique film, peut-être magnifique c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas de l'excellent film Asbestas, dont on entend donc un extrait de la BO. Donc voilà, Rodrigo Sorogoyen, qui je trouve est un des cinéastes espagnols les plus intéressants actuellement, sera donc mis à l'honneur de ce festival qui a lieu au moment où l'émission est diffusée, c'est déjà quasiment la fin de ce festival, mais en tout cas je vous invite à découvrir l'œuvre de ce cinéaste et aussi à suivre voilà, le festival avec les collègues de The Cinema Show qui suivent donc comme chaque année le festival sur place présenté par Simon. Voilà donc The Cinema Show, l'émission talk de cinéma de Radio Campus bien entendu. Et on termine avec ce film, cette bande-annonce d'un film qui s'appelle Nora. Ce n'est pas toutes les semaines qu'un film saoudien sort en salle, et pour cause, le cinéma de ce pays n'est pas encore très prolifique. Il n'y a pas beaucoup de films, pour la simple bonne raison que pendant des années, les salles de cinéma étaient bannies dans ce pays. Et là, alors, ça fait quelques années que le pays s'ouvre un petit peu plus, ou en tout cas au niveau culturel, il essaie de donner l'impression de s'ouvrir un peu plus, et c'est pour cette raison que Taoufik Al-Zaidi a pu réaliser son premier long métrage, qui s'inscrit dans cette politique d'ouverture que connaît le Royaume actuellement, avec aussi ses paradoxes. Il fait ainsi, et je le cite, une sorte de pari sur l'avenir même du cinéma saoudien, et on veut croire que le cinéma est un moyen d'aller vers plus de liberté, et en tout cas, on a envie, pour ma part, j'ai envie de le croire. Voilà, c'est sur ce petit message d'espoir et d'ouverture qu'on va se quitter, car c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Yanis pour la technique et merci à vous de l'avoir écouté. Juste après, sur Radio Campus, vous retrouverez à 17h l'émission Carousel, ainsi que The Cinéma Show, j'en parlais juste avant, à 19h. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode mercredi prochain si vous nous écoutez en direct sur le 102.2 et quand vous le souhaitez en podcast. Bonne journée ou bonne soirée à tous et à bientôt sur de nouvelles pistes.